Vous avez publié plusieurs bouquins. Hein ?
Il a déjà publié, effectivement, 4 ouvrages.
Voilà, parce que pour BHL, il n'y a que la vie sexuelle de Kant qui l'a intéressé, mais il aurait pu s'intéresser...
Il aurait pu s'intéresser à Landru.
Landru, précurseur du féminisme.
Absolument.
Il aurait pu s'intéresser à Nietzsche et le démon de midi.
Savoureux.
Il aurait pu s'intéresser à la métaphysique du mou.
Vous avez absolument raison.
Voilà.
D'ailleurs, d'autres se sont intéressés, puisque ces ouvrages sont traduits à travers le monde entier. On peut lire Botul en allemand, en castillan, en roman, en portugais, en norvégien, au Brésil. Et puis, là, on a l'œuvre, effectivement, qui se construit, puisque l'armoire de l'arrière, où les premières archives, les premiers textes, les premiers bouts de textes, puisque c'est aussi un fondamental chez Botul, c'est-à-dire qu'il est un philosophe de tradition orale, donc il n'a normalement rien laissé, sauf quelques petits bouts, si j'ose dire, dans cette fameuse armoire en bois fruitier, dans laquelle nos amis émérites de l'association des amis de Jean-Baptiste Botul, justement, œuvrent à reconstruire cette œuvre.
Il y a beaucoup de choses qui m'intriguent. Je voudrais savoir d'abord comment vous avez rencontré Botul. Frédéric Pagès, c'est vous le découvreur de Botul ? Comment ça s'est passé, votre première rencontre ?
C'est notre Saint-Paul à nous.
Oui, c'est toujours... je ne voudrais pas être trop personnel ni trop intime. C'est une expérience effectivement assez bouleversante. Ça se passait en 1995. Et je peux juste dire que j'avais réuni quelques amis à la Sorbonne pour ce qui s'appelait à l'époque le banquet du bac philo, pour perpétuer la tradition orale de la dispute philosophique, c'est de la disputatio, comme on disait en latin au Moyen-Âge, qui est un match de philo sur des sujets philosophiques qui occupaient beaucoup les universitaires pendant des siècles à la Sorbonne. Et j'ai trouvé dommage que cette tradition se perdent, et donc j'avais à l'époque, de moi-même, invité des avocats, des comédiens, quelques profs de philosophie, même à la Sorbonne, c'était la salle Louis-Liard, quelques-uns s'en rappellent, ça avait été enregistré par France Culture. À partir de là, je passe les détails, est venue l'idée de formaliser, d'organiser ce grand mouvement de tradition orale, cette renaissance en quelque sorte de la tradition orale en philosophie, et avec d'autres amis, dont certains sont autour de cette table. Le nom de Botul, comme ça, comme la langue de feu sur les apôtres le jour de la Pentecôte, est descendu sur nos têtes. Et Jean-Baptiste Botul nous a été révélé, en quelque sorte, difficilement, puisque, comme on l'a dit, c'est un philosophe de tradition orale. Nous ne savons quasiment rien, ni de sa vie, ni de son œuvre.
Ah ben si, vous savez beaucoup de choses de sa vie.
Nous ne savons rien de certains, je veux dire, Daniel Mermet.
Vous voyez,
toute proposition... Mais le problème du botulisme est là, et on le touche du doigt, et merci de me donner l'occasion de le dire. Dès qu'une proposition botulienne soit de nature théorique, soit biographique est avancée dans le mouvement botulien, automatiquement des contestations, des critiques, des discussions jaillissent, car rien n'est établi de façon encore certaine. Nous sommes un mouvement jeune, il faut le dire, le botulisme a été freiné dans son expansion, parce que botulisme en médecine, ça désigne une maladie grave, due à la toxine botulique, la charcuterie avariée, enfin les auditeurs savent de quoi on parle. Donc le botulisme au sens philosophique a été considéré comme une maladie. À ce titre, peu diffusé, peu propagé en France, car nous n'avions pas envie d'être accusés d'atteinte à la santé publique.
Alors vous étiez tous là ce jour-là, ou bien comment les uns et les autres vous êtes venus au botulisme, Hervé par exemple, Hervé Le Tellier ?
Je me souviens d'avoir été l'une des personnes qui participait à cette magnifique rencontre à la salle Louis-Liard, où j'avais passé le bac sur un sujet qui devait être « Faut-il perdre ses illusions ?» C'était un sujet du bac. C'est vrai que le botulisme, l'esprit du botulisme planait sur les eaux et c'était l'occasion de le revigorer, de lui donner du sens, de lui donner un contexte dans lequel il pouvait croître, multiplier, connaître une expansion qui aujourd'hui arrive par un hasard absolument invraisemblable à une sorte de petit sommet momentané que nous espérons dépasser dans les années qui viennent, mais qui n'a jamais été pour nous un canular. Il n'a jamais eu volonté de faire tomber qui que ce soit dans un trou. Ceux qui y sont tombés ont creusé le trou eux-mêmes. Quand j'entends, ou quand je lis dans des journaux féminins, que les botuliens tirent profit et chevauchent l'éléphant médiatique, qui est un philosophe télévisuel bien connu, je ricane. Pour l'instant, c'est plutôt, je m'excuse, le philosophe médiatique bien connu qui se chevauche l'éléphant qui est Botul. Car pour notre part, nous n'avons jamais à aucun moment espéré que qui que ce soit tombe dans un trou, puisque nous n'avons pas creusé de trou.
Christophe Clair, votre rencontre avec Botul.
Cette rencontre est une rencontre effectivement des origines.
c'était avant le banquet du bac philo, et puis pendant le banquet, où il y avait un succès extraordinaire, 800 personnes étaient venues, 400 dans la salle, 400 dehors, enfin c'était fascinant, et à ce moment-là, on a vu le projet botulien s'incarner.